Paternage. Ah. Bah, vous voulez que je parle des nouveaux papas? Très investi par rapport à l'époque d'avant, c'est sûr. Bon, mon mari, il a changé les couches normales, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ces nouveaux mots, ces nouvelles expressions. Et aujourd'hui, c'est un mot qui risque de faire tomber les boomers de l'armoire que nous allons évoquer. Tiens, d'ailleurs, Cyril Lacarrière, notre rédacteur-chef, vient de tomber avant même que je prononce le mot. C'est dire si le boomer va être déstabilisé cet après-midi, puisqu'on zoome sur le paternage. Longtemps, on a connu que le mot « maternage », car c'était la maman qui cajolait, qui consolait, qui jouait avec sa progéniture pendant que le pater familias, lui, se contentait de faire bouillir la marmite. Mais voilà, le monde change. Alors, pas assez vite, nous dira notre invité. Les nouveaux papas, soi-disant super investis, ne le sont pas toujours tant que ça, et c'est toujours en mi-2025 la mère qui gère le plus les enfants. Sauf que ça bouge et que certains papas prennent vraiment leurs responsabilités à tel point qu'on peut nourrir de l'espoir pour les enfants qui naîtront, je dirais, dans 5-6 ans. Nous sommes le 21 mars 2031 à la maternité Pascal Sevran d'Alençon. Le terme de sa femme était mi-avril, mais Quentin l'a convaincu de programmer une césarienne le 21 mars afin que leur enfant naisse le même jour qu'Ayrton Senna. C'est important de naître sous une bonne étoile, déclarera-t-il, insensible à la remarque de sa compagne selon laquelle il y avait mieux en termes de bonne étoile qu'un mec décédé à 34 ans après un choc frontal à 200 km/h. Heureusement, à part tout ce qui concerne la Formule 1, Quentin, lui, est quelqu'un qui écoute, quelqu'un aussi qui vit avec son temps. C'est pourquoi avec lui, le paternage va débuter dès la sortie du bébé. Il en a discuté avec l'obstétricien, pas question que les premières mains à toucher Max, lui, en hommage à Max Verstappen, soient celles des sages-femmes, non. Dans une forme de paternage jusqu'au boutiste, Quentin a décidé qu'il réceptionnerait personnellement le petit colis, et quand le moment arrive enfin, la magie forcément est au rendez-vous puisqu'il l'attrape, et avant même de couper le cordon avec les dents, il lui chante
« Tu es mon millésime, ma plus belle année !»
Mon Dieu.
Quel effet ce paternage extrême aura-t-il sur cet enfant, un nouveau-né? Peut-il aspirer à une vie normale après avoir été confronté dès la sortie de l'utérus à une mauvaise imitation de Marc-Olivier Fogiel chantant du Obispo? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Guillaume Dautin.
Salut.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Guillaume, vous êtes journaliste à l'AFP. Vous avez sorti en 2021 Les Contraceptés, en roman graphique dans lequel vous parliez de la contraception masculine, coécrit avec notre collègue Stéphane Jourdain, qui est rédacteur en chef numérique de France Inter. Et vous revenez toujours avec Stéphane Jourdain avec une nouvelle BD dessinée par Antoine Grimet, L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, éditée chez Glénat, dans laquelle vous dénoncez les inégalités encore abyssales entre le père et la mère. Pourquoi le paternage est encore loin d'être la norme? On va en parler évidemment ensemble. Juste le temps de vous présenter la fine équipe. Pour l'instant, ils ne paternent ni ne maternent, puisqu'ils ne sont pas encore reproduits. Leur vie s'écoule sous le signe de l'insouciance. Leurs week-ends sont océan de fun et de plaisir hédoniste, autocentré, jamais interrompu par le moindre biberon. Oui, parfois je suis un peu jaloux. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ça s'entend un peu, hein? La jalousie.
Ça
s'entend un peu.
Ça se voit aussi. Oui. Les cernes.
Les cheveux blancs.
Quand
on a les yeux tout rouges comme ça, qu'est-ce qui vous arrive, Manon?
Une conjonctivite.
Une petite conjonctivite.
Ne me
regardez
pas sur France Inter.
Trois coups de et c'est bon.
À vos côtés, Guillaume, patience, écoute, douceur, autant de mots que personne n'a jamais associé à Manon Mariani, qui donc le jour
ça
où ça se fera compte beaucoup sur son mec pour paterner, parce qu'elle, le maternage, ça va 5 minutes. Manon, chaque
les
après-midi...
Les enfants m'adorent, bon.
Voilà. Oui, mais combien de temps? Je vais voir combien de temps vous en occupez. Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Le héros d'une série animée américaine qui a une définition bien à lui du paternage. C'est pas Homer Simpson.
Ah bah, non, j'ai pensé à Homer Simpson.
C'est un autre.
Face à vous, Guillaume, il n'est pas encore prêt à devenir père. Il faut d'abord qu'il rase cet affreux bouc. Sa compagne lui a même fait comprendre que raser cet affreux bouc était un préalable à la conception même d'un enfant. Quentin...
Et comme je la comprends.
Oui, c'est vrai, ça refroidit. Quentin, chaque après-midi, vous testez notre mot du jour sur les passants.
Direction une sortie d'école. Alors oui, au milieu des mamans qui restent en majorité dans ce lieu, j'ai quand même rencontré quelques papas. Sont-ils complètement à la rue sur le sujet? Réponse dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, est-ce que vous connaissez le grasping et le réflexe de Moreau? Vous ne savez même pas à quel âge un enfant est capable de comprendre qu'on le gronde ou pas? Vous allez sévèrement dérouiller dans le Zoom Zoom Test spécial connaissance de la petite enfance. Juste avant votre domaine de prédilection, juste avant 17h, hasard du calendrier, nous serons rejoints par l'humoriste la plus compétente sur notre thème du paternage, Marine Leonardi, dont on a tous hâte d'entendre la chronique, sauf évidemment son mari. Mais d'abord, Guillaume Dodin, pourquoi pour vous les nouveaux pères sont une arnaque? Le mot, il est rigolo, mais il est fort. Est-ce que c'est vraiment une arnaque, les nouveaux pères?
Bah c'est une arnaque parce que
qu'on dit qu'ils sont formidables, on dit qu'ils sont super investis, on dit qu'ils sont au niveau des femmes aujourd'hui. Et puis quand on regarde les chiffres et puis quand on écoute ce que disent les femmes, c'est pas exactement le cas. Et il y a un petit décalage entre la réalité et puis la belle image qu'on fait des pères aujourd'hui.
Il faut dire un mot quand même de la couverture de la BD qui est exceptionnelle, où on voit donc un père qui est en train de se prendre en selfie avec son bébé dans un porte-bébé, sauf qu'en fait lui-même il est sur les épaules de la femme et de la maman qui gravit la montagne et qui porte tout le monde. Donc ça c'est déjà
belle image.
Ça donne déjà une idée de ce que contient cette BD. Quand ce pays tournait encore rond, que Giscard était à la barre, on n'aurait jamais fait une émission sur ce mot-là. Telle fut la première réaction de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, quand ce jeune wokiste de Quentin Lui proposa en conf de rédaction qu'on zoome sur le paternage. Moi le meilleur moment avec mes gosses, c'est au Club Med de Punta Cana quand je les dépose à 8h01 au mini-club et que je peux attaquer ma première margarita peinard à 8h06. Oui, vous l'aurez compris, Cyril n'était pas chaud pour notre sujet du jour. Mais le professionnalisme chevillé au corps, il consent néanmoins à nous raconter le paternage d'où ça sort.
Avant, bien avant tous vos mensonges, et bien avant que la notion de paternage n'émerge, quand on parlait du père, c'est un autre mot qui désignait sa place dans la maison, le pater familias, le père de famille en latin. Et là, attention, à cette époque, le père de famille, c'est du registre de l'empereur romain à l'échelon local. Il règne sur tout ce qu'il possède, et aussi sur sa famille. Le pater familias, il a ce qu'on appelle la patria potestas. C'est l'autorité absolue sur ses enfants. D'ailleurs, même quand ils deviennent adultes, ils restent sous son autorité tant que lui reste en vie. Il a autorité sur sa femme, la femme qui du coup passe de l'autorité de son père à celle de son mari, et bien sûr sur les biens de la famille, dont les esclaves, je vous rappelle qu'on est à Rome. En fait, à cette époque, la famille est une espèce de mini-Rome, et comme je vous le disais, le père de famille est une sorte de mini-empereur qui a droit de vie ou de mort sur celles et ceux qui la composent. Mis à la sauce Startup Nation, ce père de famille serait une sorte de CEO, un PDG familial.
On est donc très très loin de cette notion de paternage.
C'est sûr qu'on a fait du chemin depuis. Cette notion de paternage est apparue dans le courant des années 70. C'est un néologisme issu de maternage, tout ce qui se rattache à la mère, donc pour désigner tout ce qui se rattache au père. Et cette fois, pas le père qui a autorité sur sa femme et sur ses enfants, mais le père qui s'implique. Du père qui apporte des soins, qui protège, qui joue, qui câline, bref, loin du pater familias. L'apparition de ce terme répond à l'évolution de l'implication des pères dans l'éducation de leurs enfants, même si on a encore eu les chiffres récemment, la partie est très loin d'être gagnée. Alors, est-ce que les pères ont vraiment abandonné ce rôle de pater familias? Qu'est-ce qu'un père qui s'occupe de ses enfants? Qui est concerné? Est-ce que ce n'est pas aussi un regard très occidental sur le rôle de père? Qu'est-ce que le paternage change au maternage? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Guillaume, pour rebondir sur ce que vient de nous raconter l'excellent Cyril Lacarrière, est-ce que cette notion de pater familias, qui nous vient de la Rome antique, elle imprègne encore les pères actuels, même ceux qui essayent d'être modernes et de s'occuper de leur progéniture?
On le voit un peu, oui, parce qu'il y a toujours cette idée chez les pères, on le voit dans les dernières études, qu'ils veulent quand même un petit peu incarner l'autorité à la maison. Ils se sentent investis par la société de l'autorité dans la famille, donc ils continuent à faire ça un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'ouvrent aussi sur des nouveaux domaines. Ils s'ouvrent sur le volet justement affectif, traditionnellement attribué aux femmes, c'est-à-dire je vais créer du soin, je vais jouer avec mes enfants, je vais être fun avec mes enfants, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant. Avant, ils étaient vraiment sur je ramène à manger, à boire et puis...
Et ça suffit.
Et puis je donne des coups de bâton ouais. S'il le faut. Et maintenant, on essaye de faire un peu des rôles qui sont attribués aux mères.
Est-ce qu'on est tous égaux en tant qu'homme, en tant que papa, pour investir ce nouveau champ affectif? Est-ce qu'il y a des papas pour qui c'est plus facile, ils sont plus spontanément, je sais pas, gaga de leurs enfants, ils ont envie de jouer avec eux, et d'autres pour qui c'est plus compliqué?
Stéphane Jourdain, mon co-auteur et votre collègue, il a coutume de dire que quand on est jeune, quand on est un garçon, on est élevé comme un parpaing, souvent, c'est-à-dire qu'on est élevé à n'avoir aucun sentiment, aucune émotion. Donc quand on est élevé comme ça, et ça c'est un peu une éducation traditionnelle qui continue parfois à prévaloir, et on continue à ne pas pouvoir transmettre des émotions qu'on n'a pas soi-même. Mais ça évolue aussi, il y a tout un tas de pères qu'on remarque, qu'on voit dans les enquêtes, on les entendra peut-être tout à l'heure, qui sont un peu plus ouverts là-dessus et qui veulent s'ouvrir à ces émotions, qui veulent investir le lien émotionnel avec les enfants. C'est ce que la chercheuse Christine Castelin-Meunier appelle la paternité relationnelle. C'est vraiment s'investir dans la relation, c'est le nouveau mode, la nouvelle norme pour les pères aujourd'hui.
Alors, les choses bougent pas mal, elles ont bougé, disons, en assez peu de temps. Alors, comme c'est impressionnant, on a tendance à en faire trop, à parler de ces pères modernes, à leur tresser des couronnes de laurier. Et vous, ça vous agace un peu, parce qu'on est quand même encore loin de tout ce que fait une femme. Si on parle de la charge mentale et qu'on regarde bien dans le détail, on se rend compte que le père, en fait, il s'améliore, mais il est quand même loin de faire autant que la mère.
Mais ce qu'on voit, c'est que les pères, ils sont quand même talentueux à mettre en scène le fait qu'ils s'investissent. Ça, c'est quand même un grand talent. Et quand je dis les pères, je peux m'impliquer là-dedans, hein, mais ils sont très forts là-dedans. Et du coup, dès qu'ils font la moindre chose, de suite, ils reçoivent des félicitations de tout le monde. Et comme ils en font quand même globalement plus que leur propre père, comme on fait globalement plus que nos propres pères, forcément, tout le monde trouve ça génial. Et on compare ce qui n'est pas vraiment comparable. On pourrait comparer à ce qui est fait dans le couple hétéro plutôt que par rapport à ses propres parents. Et là, la différence, c'est évidemment pas la même. On voit qu'il y a un écart qui reste fort et que c'est souvent les mères qui font l'essentiel du boulot, des tâches ménagères, mais aussi des tâches s'occuper des enfants. Quoi. Ça reste dominant.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom sur le paternage, comment les pères peuvent et doivent s'investir davantage dans leur rôle de père, c'est tout l'objet de la dernière BD du journaliste Guillaume Dodin qui est notre invité. L'arnaque des nouveaux pères, c'est sorti chez Glénat. Guillaume, vous avez coécrit cette bande dessinée avec Stéphane Jourdain qui est aussi journaliste. C'était quoi votre vision de votre rôle de père avant d'écrire cette enquête? Vous êtes papa vous-même?
Ouais, je suis papa, j'ai une fille qui a 5 ans. Ma vision c'était de se dire, j'ai envie d'être investi, de faire plein de câlins à ma fille, de jouer avec, d'être un super papa, de parler d'émotions, etc. Mais je me rendais pas forcément compte qu'il y avait aussi tout le côté qu'il y avait à côté, des choses un peu pénibles, des tâches domestiques, ménagères qui pouvaient arriver. Enfin, je m'en rendais compte, mais il y a quand même un iceberg qui arrive vers la figure, il faut le négocier, quoi.
Et dans le livre, le premier qui prend, c'est Vianney, le chanteur Vianney. Hein, c'est un petit selfie de Vianney.
Vianney, c'est un personnage intéressant parce qu'il s'est pris en photo en train de donner un biberon à son enfant avant un grand concert. Ça a été repris par un magazine de Presse People qui a dit « Ah, il est génial, il est en train d'aider sa femme avant un concert », alors que quand même, c'est peut-être son rôle s'il est père. Et puis après, il a fait une interview avec Nikos Aliagas pour dire « En fait, moi, je vais m'arrêter, je vais mettre en pause ma carrière parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants ». Donc, il y a eu des paroles et puis un peu plus tard, manifestement, des actes. Et du coup, il représente toute la palette qu'on peut avoir de la mise en scène du père.
Bah, et puis en plus, il a fait une chanson pour sa belle-fille, puisqu'il y a un enfant qui n'est pas le sien. Oui, c'est un papa plutôt moderne. Il incarne quelque chose, Vianney.
Oui, il incarne, en tout cas, manifestement, un engagement et vraiment la mise en acte.
Ouais, les actes.
Vous donnez des chiffres assez dingues. D'après l'INSEE, les pères ne gèrent que 29% des activités parentales consacrées aux enfants. Et parmi ces activités, ce sont essentiellement des jeux. Mathieu, on parlait
Pourquoi
hors antenne.
Pourquoi vous pointez du doigt comme ça?
Non, mais parce que vous en parliez. Oui, Est-ce que c'est la vraie différence dans le partage des rôles entre le père et la mère?
Oui, les pères sont plus investis qu'avant sur le jeu, les sorties à l'école, tout ce qui est cool avec un enfant. Mm-hmm. Ça, ils sont là, ils sont plus présents qu'avant. Ça reste quand même inégalitaire, manifestement, mais ils sont plus là. Par contre, le continent noir de la charge mentale, les choses pas très sympas, par exemple, on peut penser à la lessive, les vêtements, faut les acheter, faut les préparer avant d'aller à l'école, faut les laver ensuite. Là-dessus, les pères, souvent, ils sont vraiment numéro 2 sur ce dossier-là. C'est souvent les mères qui sont numéro 1. Et ça bouge, mais très, très lentement. Les pères, ils ont investi le jeu, l'émotion, beaucoup moins encore les choses pénibles.
Ouais. Mais si ça bouge si lentement, j'imagine que c'est pas génétique, c'est juste une question d'éducation. Les petits garçons, ils ont peut-être été conditionnés à ne pas se soucier de choses dont ils devraient se soucier en tant que père plus tard, à savoir laver les fringues, choisir les fringues de leurs enfants, etc. Des tâches qui reviennent encore majoritairement aux femmes.
Oui, il y a eu un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait que sur les enfants de 10 ans, âgés de 10 ans, les petits garçons faisaient beaucoup moins de tâches ménagères déjà à la maison que les petites filles. Donc clairement, il y a un sujet là-dessus. Puis après, il y a d'autres sujets dont on parle dans la BD. Il y a le congé paternité, le congé du second parent qui est beaucoup plus court. Alors ça s'explique par plein de raisons et certaines raisons légitimes, mais il n'y a pas de période où le père se retrouve seul avec son enfant. Il ne développe pas autant que la mère des compétences, le gérer, savoir gérer ses émotions et tout ça. Donc, dès la naissance, il y a un décalage qui se crée. Puis on va parler peut-être aussi du monde professionnel. Il y a plein de raisons structurelles aussi.
Est-ce qu'il y a une comparaison avec les générations précédentes? Est-ce qu'on se compare avec son propre père, par exemple, dans les actes? Et donc, on est fier de faire plus que ce qu'on a reçu?
Oui, bah, on regarde, c'est ce que tout le monde dit, c'est les pères d'aujourd'hui ont l'air plus modernes que leurs prédécesseurs. Du coup, forcément, on valorise ça, on le met en scène, on le met en avant, on applaudit dans la société dès qu'on voit un père investi. Mais quand on regarde, il n'y a pas un écart qui est si gigantesque dans les chiffres. Dans les années 80, les pères, ils géraient 20% des tâches parentales et ménagères. Les derniers chiffres solides, c'est 2011 et c'est 29%. Donc, il reste toujours une énorme part qui est entre les mains des mères. Et en plus, on ne compte pas là-dedans la charge mentale qui est assez terrible.
Beaucoup ont moqué Sandrine Rousseau quand elle a proposé de créer un délit de non-partage des tâches domestiques. Mmh. Est-ce que néanmoins, il ne faudrait pas y penser ?
Bah, je remarque qu'il y avait eu un sondage à l'époque qui avait dit qu'il y avait au moins une moitié des Français, alors c'était peut-être toutes les Françaises qui avaient dit oui, mais en tout cas, il y avait une moitié des Français qui avaient approuvé la mesure. Et je ne sais pas si on peut faire un délit là-dessus, mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose, parce que parfois, il y a des injustices manifestes. Mmh. En tout cas, nous, c'est les témoignages qu'on a eus avant de faire la BD, pour la faire, et surtout depuis qu'on l'a faite. Quand les retours des femmes qui ont lu la BD, c'est de dire, oui, il y a une injustice qui se perpétue, il y a quelque chose d'inégal, et il y en a beaucoup qui ont envie que ça change. Qui ont vraiment envie que ça change. Au-delà de leur plaisir d'être avec leurs enfants, elles ont envie qu'il y ait quelque chose de plus équilibré dans leur foyer.
Élever un enfant, ce n'est pas que regarder la Formule 1 avec lui le dimanche et l'emmener faire des tours à moto pour lui montrer, je cite, « comment devenir un vrai bonhomme en faisant frotter la béquille ». Non, Quentin, le jour venu, votre compagne exigera plus de vous. C'est d'ailleurs pour échapper à cette discussion de couple embarrassante que vous partez chaque jour vous promener dans les rues de la capitale pour faire réagir les gens à notre notion du jour. Quentin, c'est lors d'une sortie de classe que vous avez arrêté les parents.
Une sortie d'école et le premier parent que j'arrête me semble parfait. Manteau de papa, casque de vélo de papa, propriétaire de ce vélo de cargo de papa,
parfait.
Moderne.
Ouais, absolument.
Avec possibilité de mettre plusieurs enfants derrière vous.
Tout à fait.
Qui est juste derrière ?
Melville, il a 6 ans.
Bonjour Melville. Tu nous dis bonjour ?
Bonjour.
T'as quel âge toi ?
6 ans.
Ah, t'as 6 ans, tu sais lire ?
Oui.
Et vous faites quoi ?
Moi je suis consultant en informatique.
Il s'appelle Romain, ce papa, il découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen et sa définition.
Paternage, je sais pas trop ce que c'est, un nouveau père. Je veux bien juste revenir sur la définition de paternage. Il y a un mot qui m'a interpellé, c'est assister la mère. Et je pense que par définition, les pères d'aujourd'hui, ils assistent plus la mère. Ils font partie du dispositif complet, quoi. Ils ont une part.
Ils ont leur part. Il me dit que les choses évoluent, que dans son couple, c'est plutôt équilibré. Lui, télétravaille pas mal. Alors je lui demande sur quoi il sent qu'il n'est pas encore au max.
Ce que je fais moins à la maison, moi, c'est m'occuper par exemple de prendre des rendez-vous médicaux. Ça, je sais que c'est plutôt ma femme qui fait ça. En revanche, pour le quotidien, aller à l'école, aller chercher, emmener aux activités, je suis assez présent, mais c'est aussi parce que mon boulot me permet d'être assez facilement.
Ouais. Le télétravail, ça a aidé les papas peut-être, non ?
Ça a aidé tout le monde, mais ouais, ça a aidé les papas. En tout cas, ça a enlevé une excuse aux papas. Ça, c'est certain.
Qui c'est qui vient te chercher à l'école, toi ?
Bah, c'est papa.
Il est à l'heure ?
Oui. C'est quoi ce qu'on a fait ?
Ça s'appelle un micro-trottoir. J'arrête les gens au hasard et je leur parle. T'as envie de me parler ?
Non.
Bien sûr, évidemment. J'arrête cette maman sportive, énergique, un enfant au bout de chaque bras. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom ?
Faten.
Vous êtes avec qui ?
Avec mes deux enfants. Paternage.
Ah.
Bah,
vous voulez que je parle des nouveaux papas ? Très investi par rapport à l'époque d'avant, c'est sûr.
Ah ouais.
Bon, mon mari, il a changé les couches normales, quoi.
Oui, mais alors qui vient chercher les enfants à l'école ?
C'est la maman. Je travaille à temps partiel.
Ah, ok.
Je suis un peu obligée.
Mais vous en faites un peu plus.
Un peu plus, oui, mais après, ils m'aident beaucoup. Quand il arrive, il peut leur raconter une histoire le soir avant de dormir. Tant que je souffle un peu. On s'alterne.
Je lui demande alors sur quoi les papas peuvent s'améliorer au niveau des tâches, de l'implication au quotidien, de la charge mentale.
Il faut pas qu'ils piquent le rôle de la femme non plus. Hein. Je suis pas trop pour. Hein. Y a des choses, ça reste la maman pour moi. Hein. Autant un papa trop investi, ça peut aussi vite fait mettre de l'ombre à la maman, par exemple.
Alors les mères ont-elles peur de perdre quelque chose si les pères s'investissent autant qu'elles ? Le changement de mentalité doit-il aussi se faire du côté des mamans ? C'est une question auxquelles on répondra peut-être. Ma dernière rencontre, c'est ce couple avec une poussette. Et ce sont eux qui viennent vers moi. Ils ont vu le micro inter.
Depuis, on vous écoute tout le temps et je me dis, il faut qu'un jour, je suis sûr que si, avec Mathieu Noël.
Comment
ça y est, ce moment est arrivé.
Comment je m'appelle ?
Alors moi j'allais dire Quentin.
Enchanté, mais je suis ravi, vous écoutez l'émission alors.
Ouais, de ouais. Ouf. Pourquoi il est méchant avec vous, Mathieu Noël?
Avec moi
bolos, ouais. Il bolosse quoi, il est pas méchant.
Ouais, mais...
Un peu.
Moi, vous êtes mon préféré.
Bah, on ne sait pas pourquoi il bolosse tant, le boss.
Il a bien laissé la petite phrase. Hein,
comme un père, comme un mauvais père médiatique, mais bon, qui aime bien, châtie bien, je dois être son préféré aussi. Bon, ils sont hyper impatients de lire le mot de Zoom Zoom.
Paternage.
Putain, non, et pourtant, j'ai vu passer maternage.
Si vous avez vu passer maternage...
Bah, le maternage, c'est d'être très proche de son bébé.
Est-ce que vous, Rémi, vous avez l'impression d'être un nouveau papa?
Eh ben, je fais en sorte que ma compagne puisse faire autre chose que s'occuper de notre enfant.
Quel âge, là?
Qui a 4 mois.
Allez, on est en plein dedans, nous parlons de ce chamboulement de vie, ces 4 derniers mois, et on en arrive vite au congé paternité de 28 jours.
Qui est beaucoup plus court pour les hommes que pour les femmes. On pense, et on en a parlé, que c'est de là d'où vient l'inégalité homme-femme.
Bah, moi, je pense que tout vient de là. Le fait qu'à un moment donné, il se barre et que je fais tout, quoi. Enfin, vis-à-vis de lui, il a fait tout le reste, il fait à manger, il fait les courses, il fait tout ce qu'il peut. Le reste du temps, je suis 8 heures avec lui par jour, quoi. Bah, du coup, qui s'occupe de le mettre sur la mutuelle, le mettre sur la carte vitale, prendre les rendez-vous chez le pédiatre, acheter les vaccins, regarder les crèches, regarder les nounous. C'est un job à temps plein de trouver une crèche et une nounou, hein.
Vous lui en voulez ou pas?
Non, pas du tout, mais... Ouais.
Moi, je m'en veux, par contre.
Oh, ouais, alors, je sens que c'est une discussion qu'ils ont eue très récemment, mais alors, il faudrait combien de congés parentaux?
On devrait vraiment avoir au moins 3 mois chacun. Pourtant, j'ai quelqu'un qui est très conscient de ça.
Oui, parce qu'il a l'air parfait, il est tout déconstruit.
Mais oui.
Il est tout déconstruit avec sa petite doudoune rose.
J'ai tout fait, j'ai enlevé toutes les vis, tous les boulons. Et même comme ça, je sais pas.
J'ai pas de commentaire.
Même si vous ne le connaissiez pas, il est bien présent dans notre époque, ce mot paternage, remise en question, réalité financière, congé trop court. Les papas d'aujourd'hui sont évidemment bien plus présents que leur papa, que les papas de leur papa. Mais même si c'est pas encore gagné, si on continue comme ça, peut-être qu'un jour enfin, on y arrivera.
Merci Quentin. Guillaume Dodin, c'est pas tout de se déconstruire, il faut reconstruire ensuite derrière pour devenir un nouveau papa et se mettre au même niveau que la maman. Cette question du congé paternité, elle est centrale, non?
Elle est centrale. Il y avait Romain qui le racontait bien, je trouvais, parce qu'il disait il ne faut pas se comporter comme un assistant. En tant que père, il faut réussir à être au niveau de la mère et à faire les tâches à la maison. Et ça peut arriver qu'avec un congé paternité plus long. Il y avait une étude qui montrait, je crois que c'est l'adresse qu'il a faite, qui montrait que quand il y a le congé paternité, quand on le prend, les pères sont, au moment du congé paternité, super investis. Ils font les tâches presque à part égale à l'arrivée d'un enfant. Et puis après, ils reprennent le travail parce que c'est la France qui veut ça, on va
il
dire.
Il est de combien aujourd'hui?
Il est de 28 jours aujourd'hui. Ils reprennent le travail et puis quand ils reprennent le travail, les déséquilibres réapparaissent. C'est peut-être... Il y a eu peut-être une mini prise de conscience, mais après, le travail reprend ses droits et ça crée une inégalité profonde.
Elle est intéressante, Faten, cette maman que j'ai rencontrée, qui craint qu'un père trop investi prendrait la place de la maman. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Alors, ça dit que y a des rôles qui continuent à être assignés, quoi. C'est que on considère souvent que la mère continue à être la numéro un, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on le voit avec les institutions, les écoles, par exemple, qui ont tendance à appeler les mères avant d'appeler les pères. Donc, si vous voulez un bon type là-dessus, il faut mettre le nom de la mère, mais le numéro du père. Ça marche bien. Mais donc, les institutions continuent à s'adresser d'abord aux mères. Et il y a des attentes qui pèsent sur les mères. Donc, forcément, après, en tant que mère, on le reproduit, puisque toute la société attend qu'on soit une mère formidable, on y va, quoi.
Mais on l'entendait avec Faten aussi, certaines femmes ne se rendent pas forcément compte aussi de toute cette charge qu'elles ont comparée à leur mari, père de leurs enfants.
Oui, et il y a un décalage immense. Là, le meilleur moyen d'essayer d'y remédier, c'est on peut faire des listes, en fait. On se pose, on prend une heure, deux heures, on fait la liste de tout ce qu'on a fait dans la semaine, côté père, côté mère, dans un couple hétéro, et puis on voit qu'il y a un beau décalage parfois.
Les pères en font-ils plus qu'avant avec les enfants? Oui, en font-ils suffisamment? Clairement non, surtout Cyril Lacarrière, mais ne lui jetons pas la pierre. Non. On continue de zoomer sur la notion de paternage avec celui qui signe justement
un bon papa,
une BD.
Cyril.
Oui, c'est vrai que c'est un bon papa, c'est vrai que je suis une ordure, comme le signalait justement
oui,
cette personne dans votre micro-trottoir.
C'est bien d'en prendre conscience, c'est vrai.
Bon, sauf au Club Med, où il les a quand même beaucoup mis au mini-club. Enfin bon.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Zoom sur la notion de paternage cet après-midi dans Zoom Zoom Zen. Pas facile d'être un bon père en 2025, surtout quand on a une double vie. Mon père, ce héros au sourire si doux, disait Victor Hugo. Mon père, ah oui, le monsieur barbu que je vois pour le pont du 1er mai, dirait plutôt Hugolin, le fils caché de Cyril Lacarrière dans le Luberon. En voilà un qui a besoin des conseils. Question paternage. Ça tombe bien, toutes les réponses sont dans le Zoom Zoom Test. Un quiz qui va permettre aujourd'hui à notre rédacteur en chef, un peu vieille école, de se mettre au goût du jour du paternage. Ce qui tombe bien, un fax vient de l'informer qu'un cinquième enfant arrivait bientôt du côté du Vaucluse. Normal, moi quand j'arrose, ça pousse, commentera Cyril, poète. Cyril qui a donc passé le week-end dans la communauté des Catogans de Gaïa, auprès de son gourou préféré, Ghislain Fontana. D'après vous, Manon Quentin, avec le principe du compost et celui des toilettes sèches, qu'a appris Cyril d'important ce week-end ? Que faire écouter du Mozart in utero à votre bébé pouvait faire de lui un génie ? Que lui faire écouter U2 avant de dormir pouvait faire de lui un citoyen du monde ? Ou que lui chanter du Manu Chao pour qu'il s'endorme était bénéfique à son développement psychologique ?
C'est.
Pour vous, c'est Manu Chao, très bien.
C'est Mozart.
Mozart ?
Oui.
Mais quelle erreur, une bonne réponse. Bonne c'est réponse de Manon, évidemment. Alors évidemment, ça nécessite de prendre sur soi. La dernière fois que quelqu'un a chanté du Manu Chao en présence de Cyril, il a fini avec de la chevrotine dans le cul. Et pourtant, les spécialistes de la petite enfance vous le diront, inutile de faire écouter de la musique à bébé. Il faut que vous chantiez vous-même les chansons, que ce soit du Manu Chao ou du Henri Salvador, même du Eddie Depreto, peu importe. Attention tout de même, Manon. Pour ne pas que l'expérience vire au traumatisme pour le nouveau-né qui est tout petit, il convient d'être sobre quand vous chantez, évidemment.
Et chantez juste, peut-être.
Et chantez juste,
c'est mieux. Possible. C'est
quant à cette idée selon laquelle faire écouter Mozart à votre bébé in utero serait bénéfique à son développement, désolé de vous dire que ça ne marche pas, ce qui est regrettable pour la société espagnole qui a commercialisé quoi ? Mozart pour les fœtus, le CD qui stimule votre embryon ?
Waouh.
In utero veritas, l'iPod intravaginal qui stimule bébé ?
Non.
Ou Sardoudou, la mini-radio qui diffuse à bébé l'intégrale de Michel.
Ne m'appelez plus jamais France.
Vous m'avez dit quoi comme réponse ?
A.
Moi j'écoutais Michel. Réponse A, c'est une mauvaise réponse.
B.
Bonne réponse, voilà, Manon, bon. Bravo ! Oh, quel talent, Manon, incroyable. Bonne réponse
alors.
De Manon. Non, pas de Sardou.
Sardou.
Tout partait d'une bonne intention, je cite, « Initier le fœtus à la magie des chants de Noël via un iPod intravaginal. » Hélas, aucune étude n'a jamais prouvé l'intérêt du dispositif.
Non mais ça n'a pas été fait.
Ça a été fait en Espagne. Oh, ah, oui. Mais retour...
Franchement, ouais.
D'accord.
Il y a différentes tailles à l'iPod. Voilà.
Évidemment, voilà. Évidemment. Bon. C'était un iPod nano. Retour dans le jardinet de la tiny house de Ghislain, où Cyril observe méduser les enfants de la communauté jouer avec les crottes des chèvres alpagas élevées par Ghislain pour tisser ses polaires. Crottes qui, selon lui, remplacent idéalement la pâte à modeler bourrée de perturbateurs endocriniens. Soudain, pour Cyril, c'en est trop, il se met à gueuler « Oh, Quentin, on joue pas avec la merde quand même !» Illusion d'optique, ce n'était pas Quentin, mais Quinoa, un enfant de 6 mois. De loin, franchement, c'était trompeur. Girol, la mère de Quinoa, ne tolérant pas qu'on gourmande ainsi son enfant, Girol. Fait rapidement une mise au point. Laquelle ? Quinoa ne joue pas avec de la merde, il apprend à compter. On ne dit pas merde, on dit jus de vie. Et puis, de toute façon, à son âge, il ne sait pas ce que c'est qu'un ordre.
Les trois ?
Ah, mais pourquoi il y avait ABC, là ?
BC, c'est ça que vous avez rien dit.
BC.
C'est dommage, Quentin. J'ai...
ASC, Quentin,
j'avais envie de lui donner le point, je lui donne.
Ouais.
Oui, ASC, un enfant de 6 mois est capable de comprendre un rapport de 1 à 2, contrairement à Quentin qui, à l'URSSAF, gagne 2 et déclare malgré tout 0. Un enfant de 6 mois, c'est vrai que c'est vrai, on rappelle à l'URSSAF que vous êtes là pour répondre,
allez,
à leurs questions, vous tenez prêt. Un enfant de 6 mois est en revanche incapable d'assimiler un ordre, c'est seulement vers 1 an qu'il pourra comprendre ça, et encore, si vous ne haussez pas la voix. Dis donc, c'est hyper compliqué le paternage, se dit Cyril, qui s'oriente néanmoins vers l'atelier initiation au grasping et réflexe de Moreau. Enthousiasme vite douché car loin d'être la découverte d'une nouvelle technique de self-défense, que va apprendre Cyril ? À aider un nourrisson à prendre ses premiers repas ? À décoder les premiers gestes d'un nouveau-né ? Ou à détecter le haut potentiel chez sa progéniture ?
A.
B.
Mais dis donc Quentin, vous êtes prêt à enfanter ? Bonne réponse de Quentin. Le réflexe de Moreau, c'est le réflexe de surprise automatique du nouveau-né qui consiste à écarter brusquement ses bras et ses jambes avant de les ramener dans un mouvement d'étreinte. Quant au grasping, c'est le mouvement instinctif du nouveau-né qui lui fait agripper tout ce qui vient au contact de sa main et qui disparaît spontanément au bout de 2 à 3 mois, sauf chez l'abbé Chibrard. Enfin, nous sommes le 19 juin 2025. Dans une bergerie des Alpilles, Bruno Lacarrière, le cinquième fils de Cyril, baptisé comme ça, en hommage à notre ministre de l'Intérieur qui fait un travail formidable, un très beau travail, voit le jour.
C'est pas possible.
Et malgré son stage paternage, Cyril va pas pouvoir s'empêcher de dire une énorme connerie. Laquelle ?
Oula.
Il a les yeux de son père. Il a montré sa mère du doigt, il est HPI. Il sourit, ça sera une joyeuse nature.
Les trois ?
Ah non.
Les trois,
ah,
si. Mais oui, mais c'est pas la peine de réfléchir, Quentin. Les trois conneries d'un coup, évidemment. Non, Cyril, il est encore trop tôt pour savoir s'il aura les yeux, vos yeux ou celui du livreur Uber Eats. Vous serez fixé entre 3 et 9 mois, et plutôt 9 mois s'il a les yeux clairs. Quant à savoir s'il est HPI, il faudra patienter un peu, car c'est généralement à l'entrée de la maternelle que la différence se manifeste. Enfin, si un nouveau-né peut plisser la bouche dans ce qui ressemble parfois à un sourire, ça ne présage en rien de son côté débonnaire, c'est juste un réflexe nerveux. Dans le cas, dans la carrière, en plus, affirmer que l'enfant sera une joyeuse nature est en outre un gros pari sur l'avenir. Victoire de Manon Mariani.
Normal.
Merci.
Victoire assez normale, oui. Sachant qu'en plus Manon m'a rendu quelques menus services aujourd'hui très importants.
Voilà.
C'est grâce à elle que l'émission a lieu, puisqu'elle a trouvé la bonne imprimante sur notre étage. Ce qui n'était pas facile.
En couleur même.
En couleur, c'est magnifique. Ah, je me régale. C'est quoi être un bon papa en 2025? C'est la question qu'on se pose avec le journaliste Guillaume Dodin, qui co-signe L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, c'est chez Glénat. Guillaume, vous parlez essentiellement des pères hétéros dans votre BD, mais vous interrogez aussi des pères gays. Ils vous disent quelque chose d'assez intéressant. Ils disent subir le regard des femmes qui estiment qu'ils ne savent pas faire avec les enfants parce que ce sont des hommes.
Mmh. Oui, il y a toujours ce préjugé qui existe un petit peu que les hommes seraient moins compétents à éduquer des enfants, et ça on le voit dans toute la société. Et donc nous on s'est interrogé là-dessus, on s'est dit que peut-être il y avait une part de responsabilité des hommes là-dessus, à savoir montrer patte blanche, montrer que on s'investit sur le rôle, qu'on n'est pas négligent là-dessus. Si on se retrouve dans la rue avec un enfant complètement débraillé en plein hiver, il peut y avoir un sujet. Ouais. Alors ça c'est une caricature, mais ça joue là-dedans. Mais après, là, ça les agaçait particulièrement, ce couple, parce que eux, dans leur configuration, il n'y a pas de nana, donc ils sont tous les deux en première ligne. Et apparemment, ils se retrouvaient souvent à être... c'est un couple gay. Et ils se retrouvaient souvent à être... à se prendre des remarques de femmes, d'après eux, qui... Mm-hmm.
Il
n'y
a pas quand même une charge mentale qui se répartit quand même. Il y en a pas un qui prend plus que l'autre, même dans un couple homoparent.
Alors il disait c'est la guerre. Il disait c'est la guerre entre nous, et c'est super, c'est la guerre pour se délester des tâches. Et il disait le patriarcat, il n'intervient pas pour sauver l'un d'entre nous, puisqu'on est tous les deux des mecs. Donc c'est pas une nana qui va récupérer le lot, même si à la fin il y a souvent des femmes parfois racisées qui vont gérer les enfants, être des nounous ou faire le ménage. Mais quand même, c'était la guerre un peu plus que dans un couple hétéro plus classique.
On l'a dit tout à l'heure, si on remonte le fil, il y a un problème d'éducation des petits garçons. Mais il y a aussi un problème, beaucoup plus tard, dans le monde du travail. Aujourd'hui, le monde du travail, particulièrement en France, est très peu adapté à ce que le père prenne toutes ses responsabilités en tant que papa.
On attend à la naissance d'un enfant que la mère s'arrête et que le père continue le travail. Donc on a des chiffres qui disent que 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité, et, alors que toutes les mères qui peuvent le prennent, évidemment. Et les pères ne le prennent pas forcément en intégralité. Et puis, il y a une question très importante, c'est celle du temps partiel. À la naissance d'un enfant, les pères, je crois qu'ils passe de 4 à 6% de temps partiel, les femmes, c'est 23 à 45%.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'en gros, elles sont la variable d'ajustement de la famille, c'est elles qui s'arrêtent, qui ralentissent pour pouvoir s'occuper des enfants.
Manon.
Vous êtes parti en Suède, comment ça se passe là-bas? C'est vrai que c'est un pays qu'on prend toujours comme exemple pour parler du congé paternité, etc. Racontez-nous.
La Suède, c'est pas parfait, mais c'est quand même très différent. Là-bas, en gros, le congé parental, il dure 16 mois, on se le partage en deux. Et en moyenne, les femmes prennent 8 mois et les hommes prennent 3 mois, donc ça reste inégal. Mais les hommes, ils ont toute une période où ils sont seuls avec leur enfant.
Ouais.
Et là, on en a rencontré dans des parcs, on les voit, c'est visible, ils sont plus là avec leurs enfants, et ils apprennent plus de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que les études montrent que ça produit des effets durables sur la famille. La famille, après ce congé paternel allongé, elle est un peu plus égalitaire. Alors encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est quand même un peu mieux.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure d'écouter maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Stan Smith. Il a 42 ans, il est américain et c'est la star de la série animée American Dad. Oui, non.
Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day.
American Dad a été diffusé de 2005 à 2014 sur la chaîne américaine Fox. Elle est devenue une série culte, surtout aux États-Unis. À la manière des Simpsons ou des Griffin, elle suit une famille type américaine avec beaucoup de caricatures et d'humour. Elle se concentre donc essentiellement sur le patriarche Stan Smith, un personnage qui représente une caricature mordante du père américain de banlieue avec des valeurs conservatrices, des idéaux virils et un patriotisme exacerbé, le trumpiste idéal en somme. D'ailleurs, ses idoles sont Ronald Reagan et George George W. Bush. Stan est une version cartoonesque du père de droite ultra-conservateur. Il est agent de la CIA et il vit dans la peur constante de voir son monde, son mode de vie menacé. Du coup, il impose une discipline militaire à son fils Steve. Il rejette en bloc les idées progressistes de sa fille Hayley et relègue son épouse Francine au rôle de femme au foyer docile. Mais derrière cette figure paternelle oppressante, il y a aussi un homme terrorisé par le changement et l'incertitude qui ne comprend pas le monde dans lequel il évolue. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des saisons, son personnage se déconstruit petit à petit, en se mettant notamment dans des situations totalement absurdes qui l'obligent à revoir ses principes. Il devient temporairement plus progressiste quand il expérimente des modes de vie très loin du sien. Il devient par exemple hippie ou drag queen. Et puis, son rôle de père évolue aussi. Il devient plus proche de ses enfants, notamment de son fils, qu'il considérait pas assez viril au début de son histoire. Le créateur de la série, c'est Seth MacFarlane, et il adore travailler sur la figure du père avant American Dad. Il a créé les Griffin, Family Guy en anglais. Pareil, l'histoire d'une famille dysfonctionnelle avec le père au centre de l'histoire. La différence, c'est que cette fois-ci, le père, Peter Griffin, est un personnage excentrique, immature et souvent irresponsable, un peu à la manière d'un Homer Simpson. En tout cas, c'est marrant de voir que les pères sont souvent des figures caricaturées stars de séries d'animation.
Merci Manon. Justement, Guillaume Dodin en parlait de représentation, mais le fait que les pères soient si souvent caricaturés dans les films et les séries, finalement, ça aide pas.
Bah non, ça aide pas, parce que ça les laisse un peu dans un rôle un peu stéréotypé. Et après, ils sont caricaturés. Ce qu'on ne voit pas dans les séries, dans les films, c'est juste un père, on va dire, normal, qui n'a pas de révélation un jour où sa copine a un problème. C'est juste un père qui s'occuperait de ses enfants et qui prendrait le rôle parce qu'il trouverait ça cool. Et ça, on le voit encore très peu.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il vient de fêter ses 38 ans hier. Et notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, lui a offert le plus beau de tous les cadeaux, lui permettre de réintégrer le groupe WhatsApp de Zoom Zoom Zen, duquel il avait été exclu jeudi dernier pour insubordination. Bonjour Pierre Courade.
Ce fut mon plus beau cadeau, c'est vrai.
J'espère bien.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Pierre, vous êtes encore grisé par ce cadeau et la générosité surtout de Cyril, mais il est temps de nous résumer en une minute chrono tout ce qu'on s'est dit.
Et aujourd'hui, une enquête sur une révolution manquée, pas celle du bouc de Quentin évidemment, celle sur les nouveaux pères. Notre invité Guillaume Dodin s'est posé la question avec son collègue Stéphane Jourdain de savoir ce qu'est être père en 2025. Tout part d'un constat personnel, hein, même s'ils avaient l'impression d'être des papas modernes à s'occuper de leurs enfants. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne passaient que les bons moments avec leurs enfants, jouer essentiellement, des instants heureux qu'on peut facilement instagrammer et s'attirer donc toutes les louanges. Mais ce que les deux auteurs appellent l'arnaque des nouveaux pères, c'est ça, c'est déjà pas mal, hein, mais on est loin du paternage versus les moments moins glamour, hein, de l'éducation d'un enfant, les inscriptions dans les clubs de sport, les réunions parents-prof, pense à la crème solaire, au goûter, etc. Des activités trop souvent dévolues aux mamans. Le paternage, ce serait donc un rééquilibrage dans la répartition des tâches. Reste que, d'après notre invité, ce qu'il nous a expliqué, c'est que la société peut aussi être un frein à l'émancipation du paternage. L'homme au foyer n'est pas encore entré dans les mœurs. Le temps de travail et le regard des collègues sur un homme qui quitte le boulot pour aller chercher ses enfants à l'école est encore compliqué à affronter. Tout ça n'exonère pas pour autant les pères, hein, même s'ils sont placés au pied du mur. Peut-être vont-ils avoir envie de faire évoluer les choses. Contrairement aux femmes, ils ont tous les leviers pour y parvenir.
Merci Pierre Courade qui venait de faire 1 minute 15, donc vous avez dépassé de 15% le votre timing. Ça, c'est normal, parce que votre intelligence est seulement humaine. Maintenant, avant Marine Leonardi, puisqu'aujourd'hui c'est la journée spéciale IA sur Inter, on a essayé de faire un petit jeu qui s'appelle « Pierre Courade sera-t-il au chômage ce soir ?» On a demandé à l'IA de nous proposer son propre petit carnet, un résumé de l'émission en 1 minute chrono avec en prime la voix de Nicolas Demorand. C'est parti.
Mathieu, je prends la place de Pierre Courade aujourd'hui. Ne lui dites rien, on va voir combien de temps il met à capter. Alors, 7 heures de radio, on a reçu Guillaume Dodin, journaliste et co-auteur de la BD L'Arnaque des Nouveaux Pères. Verdict, les papas sont un peu trop applaudis pour des exploits aussi banals que changer une couche ou tenir un biberon. Apparemment, il suffit de faire un selfie avec son enfant en porte-bébé pour passer pour un héros des temps modernes. Problème, pendant ce temps-là, les mamans gèrent encore 71% des tâches parentales et surtout la fameuse charge mentale. On a aussi parlé congé paternité, trop court, mal réparti. Et puis, il y avait les micro-trottoirs. Des papas en mode « je fais déjà beaucoup » et des mamans en mode « Mouais, enfin, c'est encore moi qui gère les rendez-vous médicaux. Bref, les pères progressent, mais doucement, hein. Pas sûr qu'on soit prêt pour une révolution du paternage. C'était ma minute d'info clandestine en remplacement de Pierre. J'attends de voir quand il se rendra compte de mon coup d'état.
Très rapidement, il s'en rend compte déjà. C'était le Nicolas Demorand québécois, hein, cette intelligence artificielle. Mais vraiment, bon, ouais. Guillaume, je vous laisse juger quel était le meilleur résumé finalement. L'humain.
Évidemment, Pierre, il peut rester dans
ses gentils. Merci, Guillaume. Vous revenez demain, Pierre.
C'est gentil.
Marine Leonardi, chronique tout confort pour vous aujourd'hui, puisque vous retrouvez un vieil ami.
Guillaume Dodin, mais quel plaisir de vous chroniquer aujourd'hui. Alors attention, chroniquer, rien à voir avec le fait de baiser avec de la Cronenbourg. Mais je précise pour tous ceux qui ont une vie sexuelle active, donc qui très vraisemblablement ne sont ni abonnés à mon compte Insta, ni à celui de Guillaume Dodin. Ah bah, si tu lis l'arnaque des nouveaux pères un samedi soir dans ton lit, bon, c'est que la dernière fois que t'as tiré ton coup, Macron était encore à l'école. Et encore, même lui, il baisait plus que toi avec sa prof. Oh, mais qu'elle est vulgaire, ce besoin de tartiner du sexe partout. Écoutez, madame, si j'en tartine autant dans mes chroniques, c'est que j'en tartine pas beaucoup ailleurs. Et oui, je parle plus de cul avec Cyril la carrière qu'avec mon mari, plus de carrière avec mon mari qu'avec Cyril. Voilà, donc, mais à un moment donné, je ne sais plus qui je dois sucer pour avoir une promotion. Non, je plaisante, hein, je sais que c'est avec toi, Mathieu, bien évidemment.
C'est bien.
Non, Guillaume, je reviens à vous. Je ne vous ai pas oublié. Vous avez co-écrit l'arnaque des nouveaux pères, comme quoi un homme, même déconstruit, ne sait vraiment rien faire tout seul. Après, quand je vois votre faux look de breton et votre moustache, on pourrait penser que vous auriez plutôt écrit l'arnaque du hipster que vous alliez pécho à 3h du mat. Si je me permets de vous charrier, Guillaume, c'est parce qu'évidemment on se connaît et on s'adore. Hein. Guillaume, c'est un allié. La moustache, c'est parce qu'en dessous se cache Guillemette. Ceci n'est pas un homme. Faut pas être débile, personne n'a autant de cheveux passé 30 ans. On s'est dit, comment peut-on faire pour que les hommes écoutent nos revendications de femmes? Mais si Guillemette, elle se déguise en mec, ça peut passer, hein, avec ses grosses épaules. Et ben, c'est raté, puisque c'est encore les femmes qui achètent votre livre en majorité. Allez. Et ça, je l'ai vu parce que, véridique, mon mari, un soir, m'a vu en train de lire votre BD au lit. Et il m'a répondu « C'est quoi ce torchon ?» J'ai dit « Mais c'est super intéressant, c'est un gars qui écrit. » Il m'a répondu « Non, je parlais de toi. » après, même quand je suis immonde, il arrive à avoir une érection. Vraiment, je ne sais plus quoi faire pour être tranquille. Alors, j'ai envie de vous dire, Guillemette, prochaine étape pour que les hommes comprennent le porno féministe. Non, mais parce qu'il n'y a que ça qu'ils regardent. Alors, j'en ai parlé à Manon et à Pierre Courade, ils sont chauds. Ils le feront pour un cachet France Inter, donc vraiment nada, c'est pas ça qui va gréver le budget. Pardon Mathieu, on fait des blagues de pauvres, excuse-nous. Pour le scénario, on peut faire un truc chic et un peu niche, tu vois, genre une meuf qui jouit quand son mec lui énumère tout ce qu'il a fait aujourd'hui. J'ai sorti les poubelles de mon propre chef. Arrête ! J'ai mis mon caleçon dans la machine, je vais pas tenir, Gaspard ! Je suis passée à la CAF, c'est trop, je craque ! J'en dis pas plus, ça commence à m'exciter. C'est tellement rare que mon corps va lâcher. Guillaume, ton livre, on va arrêter de faire semblant de se vouvoyer, on dirait presque un jeu de rôle. Ton livre est d'utilité publique, même s'il y a quelques idées qui me perturbent un peu, je dois dire. Tu dis qu'en Suède, le congé paternité dure plusieurs mois, ce qui est un progrès. Bon, personnellement, je trouve qu'à seulement quelques semaines de vie, ma fille était encore un peu jeune pour s'occuper de mon mari et de la maison. Tu expliques que les hommes sont aussi beaucoup sollicités au boulot, notamment en fin de journée, et que c'est mal vu de quitter tôt le taf pour eux. Alors là, mon Guillaume, je t'arrête tout de suite. Mon mari, tous les jours, il a une réunion à 18h30 qui s'appelle Point Urgent, avec 18 autres mecs où ils commandent des matchs de paddle en ligne. Voilà. Je le sais parce qu'une fois, je me suis connectée sur leur Zoom avec une barbe et un bonnet de hipster, et contrairement à Merwan Ben Lazar, tout le monde m'a proposé un match en double de comme quoi dans la vie, c'est comme à la télé, le seul vrai gagnant, c'est toujours l'homme blanc.
Merci beaucoup Marine Leonardi, qu'on retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Non, on ne vous retrouve pas la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen pour cause de... Vous êtes en vadrouille, on va dire.
Goguette.
Ça va, voilà, ça
cette fameuse tournée.
Je suis en temps partiel. Pour votre
spectacle Mauvaise Graine.
Tout à fait.
Évidemment. Merci Guillaume Dodin de nous avoir expliqué cette notion de paternage. Je rappelle, votre BD, L'Arnaque des Nouveaux Pères, enquête sur une révolution manquée, c'est chez Glénat.
Zoom Zoom Zen.